Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauché.
19h20 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec Annie Lemoine. Bonsoir Annie.
Bonsoir.
Avec le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonsoir Yves Tréhard.
Bonsoir Marco, bonsoir
avec
à tous.
Avec Nicolas Domenac. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Et avec Alain Duhamel. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Bonsoir. Les nationalistes corses à la fête. Leur liste PA Corsica pour la Corse a donc largement remporté le premier tour des élections territoriales hier. 45,36% des voix. C'est un raz-de-marée avec un taux de participation de 52,17%. Raz-de-marée avant la mise en place d'une collectivité unique le 1er janvier 2018. Si les résultats sont confirmés par le second tour, il va falloir que Paris adapte ses relations avec l'île de Beauté. Alors la Corse, une nouvelle Catalogne, l'indépendance est-elle vraiment de la science-fiction? Sur les réseaux sociaux, Benoît.
C'est très partagé. Bonsoir. Une merde d'incompréhension sépare les internautes. Le seul constat unanime, il est posté par Antoine. Le candidat de Macron se ramasse. Éric applaudit ce dégagisme. Nous n'avons pas oublié, entre autres, sa loi permettant de plus détruire les constructions édifiées sans permis. Démolir leur magouille d'État, c'est ramollir les combines locales. À bas l'insalubrité, vive l'insularité, lance même Patrick. Max se demande au contraire comment se réjouir du score des identitaires dans cet océan d'abstention. Bon, il n'y a plus de FN, se réjouit Toine. Peut-être un peu de contagion de la Catalogne, se demande Mado. Nombreux sont ceux comme Aurélie qui disent « Mais pourquoi pas, s'ils veulent être indépendants, c'est eux que ça regarde. C'est la France qui va enfin pouvoir devenir indépendante de la Corse », tacle le même Patrick. Et puis ceux comme Nick qui ricanent « Qu'est-ce qu'ils ont pour se développer sans l'aide publique? Des clémentines, du fromage, un peu de vin? Aucun pays les reconnaîtra. Regardez la Catalogne. Un mois après, ils sont rentrés dans le rang. Le rêve est fini. » Et en quitte soupiré, après ce sera un village corse qui voudra vivre en autonomie pour rester entre soi. Quelle xénophobie ordinaire. Cause à Lucie de cette situation ubuesque qui accuse les gouvernements successifs d'avoir voulu acheter la paix sociale en se voilant la face. C'est que des extrémistes non représentatifs du vrai visage de la Corse, la même RP, tellement pas représentatif qu'on vient de nous confier le contrôle de la collectivité, rétorque Guétin. Le dégagisme corse sait où il va, tweet d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, alors que Brian regrette pour finir. Les indépendantistes gagnent parce que la République est faible. La Corse a besoin d'une France forte, capable d'assurer la sécurité partout sur le territoire.
Annie Lemoine, vous les trouvez comment ces nationalistes?
Divers et variés.
C'est ce qui a fait leur sacrée salade.
C'est ce qui a fait, oui, un cocktail. C'est ce qui a fait leur succès parce que vous aviez des autonomistes avec Gilles Simeoni et qui étaient plutôt rassurants, on va dire. Et puis vous avez les indépendantistes de Jean-Guy Talamoni qui effraient davantage. Ils ont des points communs. Ils sont en coalition depuis 2015, mais ils ne sont pas d'accord sur tout et notamment sur la date de l'indépendance et sur l'indépendance d'ailleurs. Des points communs comme statut de résident, la langue, etc. Bref, ce cocktail-là a joué en faveur de on est Corse. Entendez-nous, Paris, on en a marre, les prises de décision, ça doit se faire ici. Voilà, c'est une invitation au dialogue, c'est « Hé, Macron, tu viens d'arriver, bah, tu nous parles maintenant ». Mais on ne peut pas assimiler ça à la Catalogne. Malheureusement, la Corse est assez pauvre, en tout cas elle doit se développer, et il faut l'aider à se développer. On a une image, depuis la métropole et peut-être de Paris, qui est une image formidable. C'est vraiment l'île de beauté, il n'y a pas plus beau que la Corse, plus bel endroit du monde. Et on est très heureux d'y être, d'y passer au mois de juillet, au mois d'août. Mais ça ne suffit pas, il faut faire une économie, il faut que ça fonctionne, il faut faire autre chose que des hypermarchés et puis des lotissements, parce que maintenant ça se construit. Donc voilà, il faut développer la Corse et il faut que Macron, le président de la République, si je puis me permettre, développe des discussions, ce qui ne s'est pas fait en Catalogne. Parce que si ce n'est pas comparable, en revanche, j'ai une leçon à tirer avec de la Catalogne, c'est parler, dialoguer.
Oui, c'est l'anti-modèle catalan, la Corse, évidemment, puisque ils ont compris, et c'est là toute l'astuce et toute la finesse, l'habileté d'une certaine façon des autonomistes, que ça ne servait à rien de demander l'indépendance, parce que de toute manière, ils ne pourraient pas vivre de grand-chose, sachant que la Corse, ça ne représente que 0,4% du PIB français. Donc vraiment, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas se permettre ce que ose la Catalogne, et même la Catalogne riche est en train, si je vous comprends bien, mais on va le voir le 21 décembre, ouais, est en train de reculer là-dessus. Ils voient bien qu'ils ne pourraient pas s'en sortir. Alors, ce qui est extraordinaire chez les Corses, je trouve, c'est que ils ont effectivement fait cette opération de dégagisme. Ils ont dégagé tous les vieux partis qui étaient, d'après eux et d'après beaucoup d'électeurs corses, les mains pleine de confiture, de la corruption, du clientélisme, ce qui a quand même été la politique très clanique qui a été entretenue par la gauche et la droite pendant très longtemps. Et là, ils sont sortis de ça. Macron, maintenant, va être au pied du mur, parce que je vois mal, là, c'est une évidence qu'ils vont gagner largement, ils vont avoir la majorité absolue. Je vois mal Macron, maintenant, ne pas tendre l'oreille, et pour faire les réformes qu'ils demandent, c'est-à-dire sur la langue, sur la fiscalité. On est obligé de changer la Constitution.
Vous arrêtez, mais sur les prisonniers aussi.
Sur les prisonniers. Oui, mais les prisonniers, si, parce que les prisonniers, vous oubliez une chose, c'est les prisonniers les plus emblématiques sont des prisonniers qui ont des peines de sûreté de 17 ans. Et par exemple, les deux des accusés de Erignac, eh bien, des condamnés d'Erignac, ils ont eu la perpète avec 17 ans de peine de sûreté. Ils sont déjà à 18 ans. Donc là, la question va plus se poser. Ça va être pareil, d'ailleurs, pour Ivan Colonna. Il a déjà fait 14 ans et il a une peine de sûreté de 18 ans. Donc ça va vite arriver, ça. C'est pas le problème. Le problème, c'est la convertibilité dans la Constitution de ce qu'il demande. Et Macron est au pied du mur, il va être obligé de fixer un agenda de discussion avec les élus corses pour d'ici à 3 ans, il leur demande 3 ans, eh bien, trouver ce nouveau statut d'autonomie.
Donc, vous diriez que Macron est coincé dans les mains des Corses, quoi.
Exactement.
Voilà. Bah non, d'une certaine façon, les Corses ont voté comme le reste de la France. Hein. Ils ont, si on veut jouer de ce paradoxe-là, ils ont fait du dégagisme. Alors, ils ne sont pas servis de Macron pour faire ce dégagisme-là, mais ils ont envoyé péter le vieux monde qui était corrompu, pourri, et qui s'est effondré lui-même depuis un certain nombre d'années, d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas depuis hier. Second point, les nations, comme ils disent, ils ont gagné idéologiquement depuis 10 ans à peu près. C'est là où on a vu une belle démonstration, au fond, qu'on commence par gagner sur les idées et après on remporte les victoires politiques. Ils ont imposé leur thème depuis une dizaine d'années à peu près, sur la préférence d'ailleurs corse. Enfin, des thèmes comme ça, discutables, hein, la protection du littoral, enfin tout ce qui va être traité dorénavant, avec difficulté, parce que maintenant, alors effectivement, Macron va devoir dialoguer, mais ils vont avoir des difficultés. Comment on articule le romantisme nécessaire à la vie, et en particulier en Corse, avec les réalités économiques, qui sont qu'on a besoin des fonctionnaires, on a besoin des subventions du continent, ça c'est difficile. Deuxième point qui est difficile, dont on parle très peu, mais que sont devenus les mafieux qui a coquiné, c'est vrai, avec le vieux monde, mais qui n'ont pas disparu non plus, je veux dire, qui sont derrière dans l'ombre. Donc ça, c'est deux points très très importants, et il va falloir qu'ils les traitent, parce qu'ils ont parfaitement réussi leur unité, hein, entre nationalistes, c'était pas évident, mais là, maintenant, ils ont des problèmes difficiles à régler.
Alain, sur finalement les problèmes des Corses victorieux hier, mais qui en même temps ont du pain sur la planche.
Non, alors d'abord, dans les curiosités de ce scrutin, qui effectivement est une démonstration de dégagisme, il y a quand même quelque chose qui mérite d'être relevé, parce que ça c'est spécifique, c'est que Marine Le Pen est arrivée en tête en Corse au premier tour de l'élection présidentielle, et que le Front National fait 3%. Bon, ça c'est du dégagisme au cube. Bon, la deuxième chose, c'est que, je ne crois pas l'avoir entendu jusqu'à présent, mais un des facteurs qui explique largement la percée spectaculaire des autonomistes, c'est le fait qu'en 2014, ils ont renoncé à la violence.
C'est
quand même, évidemment, dans leur histoire et dans l'histoire compliquée des rapports, évidemment, entre Paris et la Corse, un élément décisif. C'est ce qui a commencé à donner une certaine confiance dans ce que pouvaient dire les autonomistes par rapport aux indépendantistes. Et alors, il y a certainement aujourd'hui des arrière-pensées, il y a certainement des ambiguïtés, mais on a quand même le sentiment que ceux qui mènent le train, en tout cas en ce qui concerne le calendrier que eux-mêmes globalement proposent, ce sont les autonomistes et pas les indépendantistes. Et moi, je crois qu'en fait, ce qui se passe, c'est une très grande chance d'arriver à trouver une solution autour de laquelle on tourne depuis 40 ans, quand même, faut pas oublier. Hein, Aléria, 1974. Bon, depuis cette époque-là, on tourne autour. Là, il y a quand même des autonomistes décidés à être autonomistes et pas indépendantistes, et un pouvoir qui est obligé de bouger, puisque c'est sa nature de bouger. Puisque Macron, c'est le monsieur qui veut bouger. Bon, ben, c'est le moment.
On y revient après la pub.
RTL soir jusqu'à 20h. On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
On continue de parler de la Corse avec Yves Tréhard, Alain Diamel, Annie Lemoine et vous, Nicolas Domenech. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est finalement une première étape avant une demande d'indépendance, hein?
Ah, c'est ce dont rêvent certains Corses, mais on n'y est pas encore. Hein, parce que comme disait Alain Duhamel, d'ailleurs Yves Tréhard, c'est des question tellement délicate à traiter qu'on ne va pas y aller en bousculant comme ça, en brutalisant les consciences, comme disait le président de la République. Hein. On en a évoqué quelques-uns, mais bon, la co-officialité de la langue corse, je ne vois pas très bien comment ça va pouvoir se mettre en place rapidement. On peut prendre ce point-là. On peut prendre le statut de résident, là aussi, avec les lois françaises, comment ça peut évoluer, comment ça peut se faire. Moi, je ne vois pas les choses très clairement. On se souvient d'autant plus que d'autres se sont cassés le nez. La gauche, on l'a évoqué. La droite, Nicolas Sarkozy s'était planté avec la Corse, avec son référendum. Donc, pourtant, il avait mis du sien et une énergie absolument incroyable. Donc, il faut avancer, certes fermement, mais sur des pattes de colombe.
Il va y avoir une obligation de la part d'Emmanuel Macron, probablement, de réforme de la Constitution, parce que sinon, il y a des dispositions qui vont se retrouver inconstitutionnelles. Mais alors, il a prévu une réforme de la Constitution, le président de la République, l'année prochaine, vous le savez, il l'avait annoncé au Congrès, première chose. La deuxième chose que Emmanuel Macron a dite, pendant la campagne en Corse et récemment pendant son voyage dans les départements d'outre-mer aux Antilles, il a dit on peut évoluer vers des statuts de davantage d'autonomie pour inscrire les territoires dans leur contexte local. Il a été pris au mot là-dessus. Il a été pris au mot, mais ce qui est sûr, pour répondre à votre question, qui est quand même celle qui taraude l'esprit de beaucoup de gens, c'est que les autonomistes aujourd'hui, ce qu'ils ont en vue, c'est l'indépendance d'ici à 10, 15, 20 ans. Simplement, ils ont compris que compte tenu de la faiblesse de leur économie, ce n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient assurer et assumer aujourd'hui.
Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tous les autonomistes. Je pense qu'il y a certainement des autonomistes qui sont des indépendantistes déguisés, bien sûr. Ouais. Mais d'après tout ce qu'on a eu, notamment comme sondage fait en Corse pendant cette campagne, qu'il y en a eu, la majorité des Corses ne veut pas l'indépendance.
Non, c'est pas
la majorité
aujourd'hui.
Des Corses veut une reconnaissance de sa personnalité avec un statut spécifique. Alors, on parlait, on avait raison de le faire, des points de blocage qui sont évidents, mais il y a beaucoup d'autres choses qui, en revanche, peuvent et même doivent être faites, et en particulier dans la définition de ce que seront les pouvoirs réels de l'exécutif et du législatif qui existeront dans quelques semaines.
Ouais, c'est demain.
Janvier. Oui. Et là, il y a quand même beaucoup de choses à mettre sur pied. Bon, ce qui sera le plus compliqué, évidemment, à l'arrivée, ça sera de trouver des équilibres financiers raisonnables. Bon, parce qu'il est évident que ceux qui arriveront au pouvoir en Corse dans ces conditions-là vont demander un maximum d'aide pour pouvoir démontrer à tous les Corses à quel point leur système est plus efficace. Mais l'aide, c'est nous, si j'ose dire.
La collectivité.
Nous, y compris les Corses. Mais ça sera... Bon, on a un président agile, on a des Corses qui ont évolué.
Qui sont habiles.
Oui, et qui ont évolué. Alors, c'est mieux quand ils sont habiles que quand ils tirent. On va voir comment ça se rencontre ou pas.
Il faut noter que pour la première fois, il n'y aura pas d'élu de gauche dans la future
assemblée.
La future assemblée, première fois depuis 82, c'est énorme. Et quand même, ils vont gérer, ces élus-là, un budget énorme, un milliard d'euros. Avec une dette de 600 millions déjà dans cette fusion des deux départements. Donc ils vont avoir des responsabilités. Mais je crois que l'esprit de la Corse aujourd'hui, c'est de vouloir de moins dépendre de Paris. C'est tout.
Non, mais ce qui est, ils dépendent de Paris, il faut le dire. Ils dépendent par des facilités fiscales qui peuvent exister. Ils dépendent par l'emploi public, parce que vous savez qu'il y a un emploi public en Corse, comme d'ailleurs dans beaucoup de départements d'outre-mer ou de régions d'outre-mer, de territoires d'outre-mer, qui est très très élevé, qui est très supérieur à ce qu'il est chez nous. Et ça, tout ça, c'est... Effectivement, s'ils demandent davantage d'autonomie, eh bien ça voudra dire aussi peut-être que quelques efforts devront être faits sur ce plan-là.
Il y a 50% des Corses qui n'ont pas voté, hein, je crois.
Ouais, 51% de...
Il y a un deuxième tour. Hein.
48%.
Ouais. 47%.
Il peut y avoir une mobilisation au deuxième 47. Tour.
Allez, autre sujet dans un instant. Brigitte Macron et le panda.
On refait le monde dans RTL Soir. Avec Marc-Olivier Fogiel.
On refait le monde à 19h39 avec Yves Tréhard, Annie Lemoine, Nicolas Demenec et Alain Duhamel. Il s'appelle Youn Man, accomplissement d'un rêve. Le bébé panda du zoo de Beauval a été baptisé en présence donc de la première dame Brigitte Macron. La Chine a offert un symbole vivant de l'âme chinoise, a-t-elle notamment expliqué lors de son tout premier discours officiel vantant les relations entre Paris et Pékin. La France renouait donc cet après-midi avec le rôle de première dame. Alors, ça vous avait manqué? Comment l'avez-vous trouvé sur les réseaux sociaux, Benoît?
Thomas résume ainsi, le public attendri par les premiers pas du bébé panda, les journalistes attendris par les premiers pas de Brigitte Macron sans son mari. C'est vrai qu'il y avait un brin de paternalisme dans certains commentaires, beaucoup comme Henri disent poliment, on s'en fout. Nombreux aussi ceux qui lâchent comme Nicole, du grand n'importe quoi, qu'elle aille voir les SDF, elle sera utile pour une fois. Arlette leur répond, sachez qu'il s'agit d'un honneur pour la France, d'une importance capitale, faut ne rien comprendre à la politique pour ne pas comprendre qu'elle le fait très bien. Ad lui a même trouvé une classe folle, Jocelyne salue un souffle d'air frais au milieu de toutes les misères du monde. Johan fait d'ailleurs remarquer au râleur que le problème ne vient peut-être pas de Brigitte Macron, qui a rempli son rôle, plutôt des chaînes d'infos quand on fait un tel événement. Et à ceux qui disent qu'il y a plus important, Nico rappelle que ce n'est pas son rôle de s'occuper des vraies priorités. Son mari a été élu, pas elle. Et puis c'est pas rien, si vous manquez de respect au panda, incident diplomatique assuré, touristes et contrats en moins, tremble Cornog. Le spécialiste des pandas, Jean-Pierre Raffarin, tweet d'ailleurs un satisfecit. Brigitte Macron a très bien participé à Beauval à la préparation du voyage du président en Chine en janvier prochain. La dimension humaine des relations peut être un atout de la diplomatie. Un beau discours, plein de respect et de positivité. Bien joué Madame Macron pour les relations franco-chinoises. Hâte de voir la suite, s'enthousiasme Evelyne. Un bémol pour finir, signé Rémi. C'est scandaleux que ce soit Brigitte Macron qui bâtisse ce panda, alors qu'on sait tous que ça revenait de droit à Chantal Goya.
Alain Diamel, vous l'avez trouvé comment pas le panda, mais Brigitte Macron.
Alors j'ai trouvé que ce que j'ai entendu du discours, enfin quand même des bons passages, c'était bien tourné et bien dit, mais à plusieurs reprises j'ai entendu l'expression « la première dame ». Il n'y a pas de première dame dans la République française. Il y a l'épouse du président de la République.
Bon.
Première dame, c'est un rôle constitutionnel.
Je sais bien.
Brigitte Macron n'a pas d'existence constitutionnelle. Elle est la femme, d'ailleurs, très sympathique, et visiblement, ses anciens élèves en particulier gardent des souvenirs émus, donc tant mieux pour eux deux, mais c'est pas un rôle constitutionnel.
Il ne faut pas vous énerver, Alain Diamel. Elle-même, elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'on l'appelle la première dame.
Ben oui, mais tout le monde le dit. Mais on est en France.
Mais Alain aurait bien aimé être son élève.
L'autre chose, bah écoutez, j'ai rarement entendu aussi d'éloges de la part d'anciens élèves vis-à-vis de leurs professeurs.
C'est pour ça, cher Alain, que c'est du gâchis absolu. C'est une femme qui est intelligente, qui a beaucoup de qualités, qui se retrouve à sourire à côté d'un panda inauguré de je sais pas quoi.
Ah non, moi je suis pas du tout d'accord.
Alors, mais parce que c'est ça, c'était un gâchis l'autre
chose que, c'était l'autre
c'est
chose
gâchis.
Que je voulais dire.
Ah pardon.
Non mais.
Non, je vous en prie.
Quel gâchis.
Dans non, la, en matière diplomatique. Les symboles, même s'ils apparaissent bizarres et curieux, sont absolument essentiels.
C'est vrai.
Et les Chinois, en l'occurrence, nous ont fait une fleur.
Mais oui, bien sûr.
Mais on
a l'impression que ça date d'il y a 50, 60 ans, ces histoires-là. Aujourd'hui, on voudrait avoir une femme d'un président de la République qui soit différente. Oh. Et elle est terriblement moderne. Elle est brillante, encore une fois. Elle est intelligente, elle a beaucoup de qualités. Donc, elle est, à mon avis, attendez, je voudrais terminer. Elle est là juste.
C'est pas moi.
C'est dur d'être une femme ici. Hein. Et alors, je ne sais pas si.
Mais pas qu'ici, Annie, pas qu'ici.
Et bon. Et alors.
Ici, vous êtes la première femme parmi nous.
Oui, au moins il y en a une. Alors, elle fait un tour de chauffe en ce moment. Elle l'a dit, quand on lui a demandé de s'exprimer, elle a dit écoutez, elle est assez humble, j'apprends, j'écoute et je reviendrai vers vous. Donc, elle est en train d'apprendre un petit peu. Elle va s'enhardir et je pense que les prochaines années du quinquennat vont nous dévoiler une Brigitte Macron différente, qui sera capable de faire autre chose que des sourires à côté de Trump, qui était d'une vulgarité sans nom, en disant qu'elle avait encore une belle silhouette. Enfin, c'est quand même inouï, ça.
Et lui, il ne peut pas en dire autant, en tout cas.
Ce qui m'amuse beaucoup, et je voudrais juste conclure là-dessus, vous avez raison, c'est que en fait, ils ont tout dû réinstaller à l'Élysée parce qu'il n'y avait plus de femmes. Hollande, depuis qu'il est séparé de Trierweiler, eh bien, il n'y avait plus rien de prévu.
Oh,
et ils sont en train de tout réaménager.
Non, mais elle n'avait pas de.
Pour le coup, elle avait plus. Bureau et compagnie.
C'est
amusant.
Dire sur Madame Macron. Effectivement, moi, je suis d'accord avec Alain. On s'en moque un petit peu à partir du moment où elle tient son rang, son statut d'épouse du président de la République. Et on préfère ça à quelqu'un qui pourrait, comme Madame Trierweiler, justement, qui en arrivant à l'Élysée avait dit « Moi, je vais réinventer le rôle de première dame. Oui. » Bon, on a vu ce que ça donnait. Non, je voudrais revenir sur ce que disait un des interlocuteurs qui parlait à Benoît, pour dire qu'on préférait qu'elle s'occupe des SDF que des pandas. Non, mais non. Parce que s'occuper du SDF, elle peut faire du social vis-à-vis des SDF, mais avec quel argent? Elle va les aider comment? Elle n'a pas plus d'argent. Je préfère que, justement, ce rôle-là eh bien, reviennent à un ministre qui a des compétences, qui a de l'argent, qui a un pouvoir éventuellement, et son
oui,
président,
regarde
et
son, Madame Obama, et son mari. Ce qu'elle a fait, elle s'est engagée.
Plutôt que, alors, la diplomatie du panda, elle a son intérêt puisque effectivement, ça consiste à entretenir de bonnes relations avant le voyage du président de la République en Chine. Oui, mais c'est des symboles, ça passe par des symboles. On aime les symboles.
Et je trouve
qu'elle n'est pas du tout ridicule dans ce rôle-là, pas du tout. Je préfère ça que de la voir aller se promener du côté de la porte de la chapelle à faire de la démagogie et à promettre des choses qu'elle ne pourrait jamais tenir.
Bon, pas obligé d'aller là.
Nicolas Demers, dans la porte de la chapelle, parce que les femmes qui ne peuvent pas se balader, etc. C'est ça à quoi vous faites allusion.
Moi, je trouve qu'elle me bluffe assez, parce que d'abord, je trouve que dans l'histoire, dans la conquête du pouvoir, elle a été essentielle. Elle a été même vraiment déterminante par ce mélange de transgressif et de tradition. C'est ce qu'elle réussit à faire. C'est ce qu'elle a réussi à faire. Mmh. Et là, comme le dit Alain Duhamel, ce statut n'existe pas. Il n'a pas été décidé de le bouleverser. Donc elle essaye d'assumer un rôle, elle qui est une intellectuelle.
Ils y ont songé d'ailleurs, hein, Nicolas.
Ils n'ont pas fait.
Ils ont bien fait d'ailleurs.
Bon, c'est une conception bobonarde, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'est vrai, je comprends qu'Annie Lemoine et toutes les féministes devraient protester, mais il a été décidé. Ça serait insupportable si elle décidait, elle, aujourd'hui, telles que sont les choses, de jouer un rôle, d'intervenir, de donner des conseils.
Sauf que vous avez
dit,
il y a pas mal de papiers sur elle qui disent que c'est la ministre des oubliés, que peut-être son rôle sera ça, de récupérer un peu tous les oubliés.
Bah pourquoi pas
Elle le cherche en tout cas, mais je trouve qu'elle l'assume bien, que ce qu'elle a donné comme interview à elle avait été une interview passionnante, c'est-à-dire montrer qu'elle avait du fou,
intelligente,
que ça nous changeait. C'était intéressant que sur les femmes, là, sur le hashtag balance ton port, elle a dit des choses très justes.
C'est vrai.
Écoutez.
C'est pour ça qu'elle est en sous-régime.
Voilà, donc elle existe quand même, je trouve. Alors, il y a ce côté transgressif. Je me demande quand ça interviendra à nouveau.
Vous allez voir.
Mais je trouve que,
c'est bien parti.
Je pense qu'on l'aura. Ouais,
mais justement, je pense qu'on ne veut pas de transgressif de la part de l'épouse du président de la République.
Bah non. On veut des deux. On veut du transgressif et du tradit.
Si elle transgresse, ça voudrait dire que justement, eh bien, elle expose son mari à la polémique et à des polémiques sans doute inutiles. Elle transgresse, ça veut dire qu'elle fera.
On disait ça du temps de Mitterrand.
Attendez, elle abusera d'une position, Daniel Mitterrand abusait d'une position.
Justement, voilà, c'est là où moi je voulais en venir. Mm. On a quand même un souvenir. C'est qu'il y a eu un moment où il y avait en France, vis-à-vis des Kurdes, deux politiques. Mm. La politique de François Mitterrand et la politique de Daniel Mitterrand. Il se trouve que ça n'était pas la même. Et moi j'ai le souvenir dans le bureau. Et j'ai le souvenir direct dans le bureau de François Mitterrand d'une conversation. Il m'a intimé l'ordre de rester dans son bureau pour la conversation avec sa femme qui était justement avec des Kurdes en Turquie. Et je peux vous dire que le savon qui lui a passé est resté dans la mémoire.
Oui, vous oubliez que les Macron s'aiment.
Oui, absolument.
Les Macron s'aiment.
Ça c'est très vachard,
mais peut-être
c'est
vrai.
Très vachard et réducteur, parce que François Mitterrand a démontré qu'il avait une telle capacité d'amour qu'il pouvait aimer plusieurs femmes à la fois.
Allez, dernier sujet dans un instant.
mais quelle émission là, où je suis.
Moi je pensais qu'il était protestant, il est jésuite.
Allez, dernier sujet dans un instant.
J'ai parlé de François Mitterrand et pas de moi.
Le chaos à la gare Montparnasse.
On refait le monde dans RTL Soir,
Marc-Olivier Fogiel.
Avec Alain Duhamel, Nicolas Domenac, Annie Lemoine et Yves Tréhard, au rapport, donc au lendemain de l'immense pagaille à la gare Montparnasse, deuxième panne géante dans 4 mois. Le patron de SNCF Réseau, invité de RTL ce matin, était convoqué chez la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui l'a sommé de présenter d'ici la fin de la semaine une nouvelle organisation et un nouveau management de la gestion des grands travaux. Mais Guillaume Papy reste silencieux malgré les appels à sa démission. Alors le PDG devrait-il partir? Faut-il privatiser la SNCF, Yves Tréhard?
Non. Parce que je crois que ça ne changerait rien du tout. Je pense que c'est un problème, effectivement, de gestion de cette entreprise. Je ne mets pas tellement en cause, d'ailleurs, la gestion de Guillaume Pépi, qui est un PDG qui est plein d'ardeur et qui connaît bien son métier. Celui du rail, mais écoutez, on a quand même, nous autres Français, l'exemple de ce qui s'est passé chez nos voisins britanniques, quand Mme Thatcher, c'était d'ailleurs un acte de bravoure de sa part, a privatisé les chemins de fer britanniques, ça a été de mal en pis. C'est-à-dire que ça a été à tel point qu'ils ont été obligés de les renationaliser pour que enfin le service public soit assuré. Donc je suis pas persuadé que ça soit ça, si vous
la
voulez.
Solution.
C'est pas ça en plus qui va empêcher que vous ayez des bugs informatiques comme il y a. Alors ça peut vous étonner de la part d'un garçon qui est plutôt libéral, certes, mais
qui l'est
toujours. Mais je crois pas que ça soit le problème, si vous voulez. Je crois simplement qu'il y a sans doute un périmètre d'entreprise qui est énorme à gérer entre le fret, qui marche pas du tout d'ailleurs, et la zone voyageur, et qui a sans doute beaucoup d'ordres à remettre là-dedans. Je suis, pour le coup, là je vais vous le dire, très inquiet pour l'avenir des grandes entreprises publiques françaises, que ce soit SNCF, EDF et quelques autres, qui sont présentées régulièrement comme des fleurons de ce qu'est le service public à la française, et qui malheureusement, je crois, un jour vont nous entraîner dans le mur, parce qu'on va s'apercevoir qu'elles sont mal gérées, très mal gérées, qu'elles perdent beaucoup d'argent, et que ça sera un casse-tête économique terrible, une horreur économique même, pour reprendre une expression, que le jour où il faudra changer le modèle.
On est à l'SNCF dans une phase très particulière. Pendant au moins 20 ans, il y a un retard d'équipement et d'entretien considérable qui a eu lieu, et on est dans une phase de rattrapage accéléré. Et on sait très bien que les rattrapages accélérés, c'est épouvantablement difficile à gérer. Là, c'était les travaux qui sont faits, qui sont énormes en ce moment, mais étaient prévus depuis très longtemps pour ce week-end, parce que c'était un des dimanches de l'année où il y a le moins de monde, et un des jours de l'année où il y a le moins de voyageurs. Ils savaient qu'il y avait un risque, manifestement. Moi, ce que je trouve anormal, c'est pas quand on modernise à toute vitesse, avec beaucoup de retard, et qu'il faut vraiment y arriver. C'est pas qu'il y ait de temps en temps un échec de ce genre, parce que c'est un échec, mais c'est l'extraordinaire et continue médiocrité de l'information donnée aux voyageurs. Ouais. Et ça, ça n'est pas...
On l'a reconnu ce matin.
Ça n'est pas supportable, et c'est vraiment une habitude. Et moi, je crois que c'est parce qu'il y a quelque chose dans la culture de la SNCF. La SNCF, ça a toujours été une entreprise fière d'elle-même, ça a été un des symboles, mais ça a toujours été extraordinairement hiérarchisé, verticale, autoritaire, et presque militaire, et que l'idée de partager avec les passagers des informations, c'est pas dans leur réflexe.
Non, mais mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'informent pas, mais que c'est la xième fois où, n'informant pas, il n'y a aucune sanction qui n'est prise ensuite et aucune amélioration.
Voilà,
c'est
vous entendez Elisabeth Borne,
manifestement. Le ton n'est pas conciliant, en tout cas.
Non, inacceptable, elle a dit. Mais je le trouve très sévère, parce que moi, j'ai été naufragée hier dans ma gare de Vannes, et je n'ai pas pu rallier Paris, dans mon TGV. Mais j'étais prévenue par un SMS me disant qu'on m'invitait...
Parce que vous êtes VIP.
Non,
c'est
pas
ce
du
vous
tout.
Vous expliquez
pas
ce matin.
Du tout, voilà. Pas du tout, parce que j'avais juste une carte d'abonnement et qu'on m'envoyait un SMS. C'est et ça. Puis il y a eu beaucoup d'informations données et les gens n'étaient pas spécialement en colère. On comprend. Bon, il y a eu des retards. On est parti ce matin. Bon, très bien. Mais je vous assure, ça n'a pas été aussi mal géré que ça. Et comme dit Alain, il y a un volume de travaux énorme. Il y a la concurrence l'ouverture à la concurrence en 2020. Il y a la concurrence aussi maintenant du covoiturage. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ils ont des vastes plans de travaux, mais c'est des chantiers énormes. Alors, faut que ce soit bien fait, mais on peut aussi concéder un bug, je crois, qui s'est résolu en à peine une journée, en quelques heures même.
C'est pas le
on
bug,
peut le concéder. Mais
c'est pas le bug qui nous énerve, en l'occurrence.
Il faut que tout marche comme ça en un claquement de doigts, résolu. Il y a d'autres choses. Il y a des bugs ailleurs.
Minimale,
il y a des situations dans le service public qui sont beaucoup plus dramatiques comme dans les hôpitaux, croyez-moi.
Attends, je termine. Le second point, alors ça, mais ça fait des années que je comprends pas, c'est qu'on n'est pas renoncé au tout TGV plus vite et pour reprendre.
C'est reconnu ses erreurs, de ce point de vue.
Oui, mais enfin, Pépi est toujours là, enfin, tout le monde. On continue. Enfin, quoi, voilà.
Non, mais la politique du tout TGV, c'est pas Pépi. Il a participé, je dirais, au train.
C'est les gouvernements, mais il a pris le train.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est que.
Et pour conclure.
Parce que vous dites, est-ce qu'il faut privatiser la SNCF ?
C'était la question.
C'est effectivement la question, mais vous allez avoir l'ouverture à la concurrence qui va arriver très vite. Et cette ouverture à la concurrence va faire en sorte que, de toute manière, la SNCF. SNCF, elle va se retrouver face à d'autres compagnies.
C'est ce que je vous disais.
Qui, de telle sorte que, si vous voulez, la question de la privatisation, je ne sais pas si elle va se poser de façon aussi aiguë. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que la SNCF, on ne le dit pas assez, elle a aujourd'hui 45 milliards de dettes. Mmh. Et il est là le sujet aussi.
Mmh. Et oui, elle doit se rénover,
mais elle est très endettée.
Et qui varie, on ne comprend plus rien. Un logiciel, c'est terrible. Attention à la politique des prix.
Allez, merci à tous les quatre. Merci à Alain Duhamel, à Yves Tréhard, à Nicolas Domenech et à Annie Lemoine. Dans un instant, le flash de 20h, donc avec Céline Landreau. Et ensuite, on retrouvera Jacques Pradel pour l'heure du crime. Bonsoir, Jacques.
Oui, bonsoir, Marc-Olivier.
Au sommaire ce soir de l'émission.
Alors, partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France, comme chaque mois. Mm-hmm. Et on va parler, évidemment, puisque c'était il y a un an, jour pour jour, de la disparition de cette jeune japonaise de 21 ans, étudiante à Besançon. Mm-hmm. Elle a disparu. On n'a plus de nouvelles d'elle depuis le 4 décembre 2016. Donc, on revient sur un an d'enquête, les dernières déclarations de la madame la procureure de Besançon, et nous faisons le point avec Damien Delceni, bien sûr, et tous ceux qui ont enquêté sur cette affaire.
À tout de suite après le flash de 20h, Jacques.
Au revoir.